Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Des nouvelles du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Après 6 mois de silence, le président gabonais s'est affiché samedi soir comme maître du jeu politique dans son pays en annonçant un remaniement ministériel dans un discours enregistré de 8 minutes diffusé par la télévision nationale. M. Bongo a déclaré avoir demandé à son premier ministre la formation d'un nouveau gouvernement. L'annonce d'un remaniement survient 2 semaines après le limogeage du vice-président gabonais et du ministre des Forêts accusé d'avoir participé à un trafic de Kévasingo, un bois précieux présent au Gabon. Notre correspondant à Libreville, Nzé, est en ligne.
Il ne s'était pas exprimé en public depuis son retour de convalescence en avril dernier. Ali Bongo vient de rompre le silence en déclarant qu'il sort de loin.
Je viens de traverser une période difficile de ma vie. Vaincre de telles épreuves renforce votre détermination à poursuivre vos aspirations et à tout mettre en œuvre pour les concrétiser.
Bien que se battant encore avec les séquelles de la maladie, le président gabonais pointe du doigt les travers de l'administration publique avec des hauts cadres plutôt soucieux de leur enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.
Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdise de récolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis.
Comme remède à cette situation, Ali Bongo Ondimba a demandé à son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. L'équipe actuelle va rester pour liquider les affaires courantes. Depuis Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Merci Ismaël Obianze. La campagne de désobéissance civile lancée au Soudan par les leaders de la contestation a démarré sur fond de violence. Selon des sources proches des manifestants, plusieurs personnes ont été tuées dimanche au premier jour de cette campagne visant à forcer les militaires à céder le pouvoir aux civils. Gabi Dorsil.
Les leaders de la contestation ont accusé dimanche les militaires du Conseil de transition d'être responsables de la mort de 4 personnes durant la manifestation marquant le lancement de la campagne de désobéissance civile. 2 personnes ont été tuées par balle dans la capitale Khartoum et à Omdurman, non loin de Khartoum. Les 2 autres ont succombé dans un hôpital d'Omdurman aux sévices subis plus tôt dans la journée. Elles avaient été battues et poignardées selon le comité des médecins proches de la contestation. La même source fait état de 118 morts et plus de 2 000 000 de blessés depuis la répression le 3 juin dernier du sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. La rue soudanaise réclame depuis le départ d'Omar el-Béchir que les généraux remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Mais les pourparlers entre les 2 camps ont été interrompus et les nouveaux actes de violence ne rassurent pas quant à l'éventualité d'une solution dans les prochains jours.
En Guinée, le débat s'intensifie entre partisans et opposants d'une nouvelle constitution. Le Front national pour la défense et la constitution a publié une liste de personnalités qu'il qualifie de cerveau d'un coup d'État constitutionnel en préparation en Guinée, ce à quoi a réagi le parti au pouvoir en accusant ses adversaires de ternir l'image du pays. À Conakry, notre correspondant Zakaria Kamara.
Parmi les 20 personnalités citées par le Front National pour la défense de la Constitution, il y a les noms des amis au président Alpha Condé qui font réagir le parti au pouvoir. La mouvance présidentielle regrette la mise en cause d'Albert Bourgi ou encore de Maître Boukouta Diallo, entre autres. Plusieurs ministres guinéens sont visés par cette publication que le ministre du Budget lui-même a cité qualifie de plaisanterie. Ismaël Djoubaté.
Moi, je considère ça comme des plaisantins. Vous voulez la démocratie et vous posez des actes antidémocratiques. Chacun est libre de dire oui, je veux une constitution ou non, je ne veux pas une constitution. Ce n'est pas un crime, c'est un jeu démocratique. Moi, ce n'est pas une liste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de société du président Alpha Condé qui, pour l'essentiel, satisfait aujourd'hui le peuple de Guinée. Ceux qui prétendent que le peuple est avec eux, alors on veut aller au référendum.
Le référendum qu'on veut proposer aux Guinéens sonne dans le camp des opposants comme un frein à l'alternance démocratique en 2020 en Guinée. Composé d'actifs activistes de partis politiques et des organisations de la société civile, le FNTC entend mener des actions pour éteindre toute velléité de changement constitutionnel. Abdourahman Sano, coordinateur.
La publication des photos des ennemis de la Guinée se poursuivra pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées en temps opportun. Aucune manœuvre dilatoire ne saurait détourner le FNTC des objectifs fixés au service de la défense des intérêts du peuple.
Pour Sidiak Touré, ancien Premier ministre et opposant au régime d'Alpha Condé, il n'y a aucune opportunité de changer la constitution guinéenne. Le président de l'UFR insiste à son tour sur la nécessité d'une alternance en 2020.
La totalité de nos compatriotes aujourd'hui vit dans la misère absolue. C'est quelque chose qui est un devoir sacré pour nous tous de faire en sorte que le changement arrive rapidement ici et cela le plus tard possible, c'est la fin du mandat en 2020.
L'actuelle constitution a été établie sans référendum en 2010. Le RPG arc-en-ciel parti au pouvoir se défend qu'il est temps de laisser le peuple décider. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Libéria, le Conseil des Patriotes collectifs des organisateurs d'une manifestation de milliers de personnes vendredi contre la gestion du président George Weah a annoncé dimanche lui accorder un mois pour satisfaire leurs revendications. Lors de la dispersion du rassemblement, les organisateurs avaient appelé à une nouvelle manifestation aujourd'hui, déplorant notamment de n'avoir pu remettre leur cahier de doléances à M. Weah ou à sa vice-présidente Joel Howard Taylor.
Nos infos sur voaafrique.com.
La page internationale de ce journal, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, s'est dite aujourd'hui inquiète de l'augmentation des tensions autour du programme nucléaire iranien. Le 8 mai, l'Iran avait annoncé qu'après l'annonce de nouvelles sanctions américaines, il ne se sentait plus tenu par certaines des restrictions imposées par cet accord, notamment concernant ses stocks d'eau lourde et d'uranium enrichi. Le président américain Donald Trump avait annoncé un an plus tôt que son pays se retirait de l'accord et avait ensuite introduit des sanctions à l'encontre de la République islamique. Le président américain M. Trump et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont exprimé leur satisfaction samedi après l'accord conclu entre leurs deux pays sur l'immigration clandestine. Mais l'opposition démocrate ici aux États-Unis n'est pas de cet avis. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait dès samedi estimé que les menaces et les accès de colère n'étaient pas un moyen de négocier une politique étrangère. À l'Alberson.
Les adversaires démocrates du président Donald Trump ont minimisé hier l'accord auquel il est parvenu vendredi soir avec le Mexique pour juguler l'arrivée d'immigrés clandestins. Il avait menacé d'user dès aujourd'hui de taxes douanières contre Mexico pour l'obliger à durcir sa politique envers ses migrants se dirigeant vers la frontière américaine. Les démocrates, dont le sénateur et candidat à la présidence Bernie Sanders, ont dénoncé ce qu'ils ont appelé les guerres commerciales permanente du président américain contre ses alliés. En revanche, les partisans de M. Trump, dont le sénateur républicain Ron Johnson, ont salué un succès obtenu, je cite, « de manière brillante, en utilisant les tarifs douaniers comme moyen de pression ».
Merci Anne. Le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong a refusé aujourd'hui d'enterrer un projet de loi controversé qui permettra les extraditions vers la Chine en dépit d'une manifestation monstre contre ce texte la veille dans l'ex-colonie britannique. Combative face aux médias, la chef de l'exécutif Carrie Lam a réaffirmé que le conseil législatif LEVCO, le parlement local, examinerait comme prévu mercredi ce texte de loi. Une intransigeance dénoncée par ses adversaires qui appellent d'ores et déjà à manifester mercredi près du LEVCO ou à faire grève, elle est en train de pousser Hong Kong au bord du précipice, a déclaré la députée pro-démocratie Claudia Mo. Les observateurs internationaux déployés pour surveiller la présidentielle au Kazakhstan, remportée par le chef de l'État par intérim, ont dénoncé aujourd'hui un respect insuffisant des normes démocratiques avec peu de place à la critique du pouvoir et des irrégularités généralisées. Le scrutin remporté avec plus de 70% par Kassim Jomart Tokayev a montré un respect insuffisant des standards démocratiques, estime la mission menée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, dans son rapport. Elle relève un manque de respect pour les droits fondamentaux, y compris des arrestations de manifestants pacifiques et des irrégularités généralisées le jour même du scrutin. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines informations, c'est dans 50 minutes où vous retrouverez Henri Francisque. Nous sommes le lundi 10 juin 2019. Merci pour votre fidélité et bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.